Si vous le voulez bien, après une centaine d'émissions, très exactement 94 émissions consacrées à l'histoire des Juifs à travers les siècles et les continents, nous allons tirer la conclusion de cette longue histoire. Israël, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Et peut-être est-il bon de se poser la question... Est-ce que le sionisme a été un échec ou est-ce que ses résultats ont été une éclatante réussite? Eh bien, c'est une affaire de point de vue. À considérer l'écart énorme entre le programme sioniste et la réalité israélienne, certains esprits chagrins pourraient être tentés de conclure à l'échec de l'entreprise. Le foyer national dont rêvaient les pères fondateurs devait assurer à l'ensemble du peuple juif une existence nationale normale. Or, moins du quart de ce peuple y vit aujourd'hui, les autres préférant, à l'instar de leurs ancêtres d'Égypte, les pots de viande de l'exil. Il se voulait un havre de salut pour tous les juifs, où qu'ils se trouvent. Or, par une cruelle ironie de l'histoire, il a du mal à assurer sa propre sécurité. Il ambitionnait de fonder une société juste et égalitaire, au carrefour des grands courants émancipateurs de l'Occident et du vieil humanisme prophétique juif. Il n'échappa guère à la polarisation sociale et aux frustrations qui en résultent. Il cherchait à offrir aux Juifs une place décente parmi les nations. Or, la guerre perpétuelle fut son lot. L'État juif prit parfois l'allure d'un immense ghetto armé et aujourd'hui, hélas, encore en butte à la réprobation quasi universelle. De cet écart entre rêve et réalité, Israël n'est qu'en partie responsable. En effet, naître sous le double signe de l'Holocauste et de la guerre ne peut prédisposer à la perfection. Donc, pour certains, l'échec est plutôt dominant dans les résultats du sionisme. Mais il y a une autre manière, moins absolue et tout aussi légitime et peut-être plus réaliste, de considérer l'histoire du sionisme et de l'État hébreu. Après tout, la réalité est toute différente de l'idée que l'on s'en fait. Et l'on sait depuis longtemps que c'est sous l'Empire que la République est la plus belle. Si le système de référence est non pas Alt-Neuland, mais la situation concrète du peuple juif, du mouvement sioniste et de la Palestine, au début du XXe siècle ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'on découvre une perspective tout à fait autre. 50 ans après la parution de l'État juif, cet ouvrage extraordinaire, eh bien, 50 ans après, est né l'État juif. 40 ans et 6 guerres plus tard, il est toujours là, résistant victorieusement au phénomène de rejet d'un environnement hostile, apparemment indéracinable. tous les 30 ans, très exactement, un acte décisif est venu renforcer son emprise sur sa terre et malgré toutes les vicissitudes, sa position internationale. Oui, tous les 30 ans. En novembre 1917, la déclaration Balfour, le foyer national juif, bénéficie de la reconnaissance officielle d'une grande puissance. Novembre 1947, la décision de partage, le foyer national juif est reconnu par la Communauté des Nations. Et novembre 1977, la visite de Sadat à Jérusalem, c'est le début de sa reconnaissance par ses voisins arabes. Pour la première fois, la paix semble vraiment à portée de la main. Dans l'intervalle, par un effort herculéen d'intégration communautaire, une nation est née. Un idiome national a ressuscité. Une culture originale se constitue peu à peu. Le chant du mouvement sioniste, la Hatikva, l'espoir, est devenu l'hymne de l'État. Ces paroles utopiques en 1978, en effet, être un peuple libre dans notre pays, le pays de Sion-Jérusalem, voilà les paroles. Eh bien, ces paroles utopiques en 1878 sont bel et bien devenues réalité. En réalité, donc, en conclusion, donc, le sionisme, les résultats du sionisme, c'est certes moins que ce que l'utopie promettait, mais c'est infiniment plus que ce qu'il était raisonnable d'espérer. Avant d'apporter la conclusion définitive à cette série d'émissions sur l'histoire des Juifs, peut-être est-il bon de, à cet instant de l'histoire, qui n'est probablement qu'une halte sur la longue histoire encore, si Dieu le veut, de ce peuple, peut-être est-il bon donc de revoir ce qu'est le judaïsme dans les différents continents sur la planète. Les Juifs aujourd'hui, donc. Eh bien, aujourd'hui, près de 100 pays dans le monde rassemblent quelque 13 millions de Juifs répartis sur tous les continents. Mais à eux seuls, 9 pays regroupent 95% des Juifs. Sur le plan démographique, 3 tendances du judaïsme contemporain peuvent être dégagées. Un regroupement autour de grosses communautés bien structurées et puissantes, opérées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième tendance, c'est un regroupement dans les grands centres urbains, administratifs et commerciaux. 80 villes de la diaspora comptant plus de 10 000 membres, regroupant près de 6 millions de personnes. Et troisième tendance, donc, l'apparition de 3 pôles, les États-Unis, bien sûr le plus important, avec 5,5 millions de Juifs, peut-être même un peu plus. L'Union soviétique avec 1,8 million de Juifs et peut-être un peu plus aussi. Et enfin, la communauté israélienne en croissance constante et qui peut atteindre un peu plus de 3,5 millions ou 3,6 millions de Juifs. Parlons d'abord, si vous le voulez bien, du continent américain. Le continent américain, avec 50% des Juifs du monde et plus de 60% des Juifs de la diaspora, comprend quatre des neuf plus importantes communautés du monde. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, New York, la plus grande ville juive du monde. L'établissement des Juifs sur le continent américain remonte à la fin du XVIe siècle. Des Juifs portugais venant du Brésil se sont installés à New Amsterdam, qui est devenu aujourd'hui New York, et c'était aux environs de 1660. Suivirent, tout au long du XIXe siècle, des vagues d'immigration importantes provenant des communautés juives de Russie, de Pologne, de Roumanie et d'Allemagne. Aujourd'hui, la population juive américaine est évaluée à plus de 5 600 000 juifs. C'est la plus importante communauté juive du monde par son nombre et par sa puissance. En effet, c'est aux États-Unis que l'on peut vraiment parler d'un lobby juif, quelque chose qui est une réalité là-bas. Les deux tiers de la population juive américaine sont regroupés autour des grandes métropoles urbaines que sont New York, Boston, Philadelphie, Los Angeles et Chicago. Avec 2,5 millions de juifs, New York est la plus grande ville juive du monde. Malgré une très forte assimilation et un vieillissement de sa population, la communauté juive américaine reste florissante, riche et dynamique. Fortement structurée autour d'imposantes institutions, elle est organisée en un puissant groupe de pression, le lobby, qui lui permet d'apporter un soutien à l'État d'Israël et une aide à toutes les communautés juives en difficulté dans le monde. La communauté juive américaine a pleinement réussi son intégration dans la société américaine. Actuellement, 37 juifs sont membres du Congrès américain, dont 29 députés et 8 sénateurs. Les juifs américains vivent en harmonie avec les minorités qui forment la nation américaine, ce qui leur a permis de lutter pour la création d'une société pluraliste et tolérante. Bien que plus réduite que celle des USA, la communauté juive canadienne n'en reste pas moins importante, avec 300 000 âmes. Une communauté existait à Montréal dès le XVIe siècle, malgré l'interdiction faite aux Juifs de séjourner dans cette colonie française. Cependant, la communauté canadienne est essentiellement le résultat d'une large immigration de Juifs britanniques et d'Europe de l'Est tout au long du XIXe siècle. Aujourd'hui, la communauté juive du Canada se compose d'une large majorité anglophone concentrée à Toronto, et d'une minorité francophone installée au Québec. Montréal compte 15 000 juifs environ. Depuis la décolonisation de l'Afrique du Nord, de nombreux immigrants juifs, principalement du Maroc, ont pu trouver au sein de cette communauté francophone un lieu d'accueil. Et quels sont maintenant les problèmes en Amérique latine? La communauté d'Argentine était à l'origine composée de Maranes. Les Maranes, vous le savez bien sûr, ce sont ces juifs portugais et espagnols qui ont été contraints par l'Inquisition d'adopter le christianisme, mais qui ont continué à pratiquer en secret leur foi juive. La communauté actuelle d'Argentine, qui peut être évaluée à peu près à 260 000 personnes, est constituée de juifs d'origine allemande et balkanique, et également de juifs d'Afrique du Nord. Le passé péroniste de l'Argentine, qui a entretenu un antisémitisme militant, et la situation politique longtemps instable ont favorisé l'immigration vers Israël et l'Espagne. Après la victoire du Parti radical aux dernières élections, un espoir renaît pour la communauté juive d'Argentine. L'éducation juive en Argentine, et c'est le cas pour toute l'Amérique latine, ne permet pas d'endiguer une assimilation grandissante. Dans ces pays où la situation sociale et économique est mauvaise, l'éducation juive d'un enfant représente le quart d'un salaire moyen. Principalement formée à l'origine de Maranes venant des Pays-Bas, la communauté du Brésil, estimée à 110 000 juifs, se regroupe à São Paulo et Rio de Janeiro. Quant au Mexique, il compte 50 000 juifs. Et en dépit de la grave crise économique que l'on sait, la communauté se développe. Il en est de même au Venezuela, 25 000 juifs, à Panama, 3500 juifs et au Costa Rica, 2500 juifs. Quant au Nicaragua, après la prise du pouvoir par les sandinistes, la synagogue de Managua a été confisquée et des biens juifs spoliés. Ainsi, après, à part quelques rares exemples, dans tous les États d'Amérique latine, une vie juive organisée cherche à se maintenir, mais hélas, les communautés se dépeuplent progressivement du fait des conditions socio-économiques difficiles et de l'instabilité politique. Après le continent américain, parlons de l'Afrique. Par rapport à sa taille et à sa population, c'est certainement le continent le moins peuplé de juifs. Il y a en tout 170 000 juifs en Afrique, dont 122 000 en Afrique du Sud. La communauté juive d'Afrique du Sud représente donc à elle seule 70% de la population juive d'Afrique. La plupart sont d'origine lituanienne, d'où leurs parents ont fui les pogroms au siècle dernier, mais la dernière communauté juive organisée fut celle du Cap, qui, dès le XVIIIe siècle, la première communauté juive organisée fut celle du Cap, qui, dès le XVIIIe siècle, commerçait sur la route des Indes. La communauté sud-africaine est bien intégrée, puissante et structurée. Vivant au pays de la ségrégation raciale, la communauté sud-africaine s'est trouvée impliquée dans le débat qui agite le pays. En effet, de 1937 à 1953, le Parti national développe une politique largement teintée d'antisémitisme. C'est dans ce contexte que de nombreux juifs ont mené le combat contre l'instauration des lois d'apartheid. En ce qui concerne la communauté juive de Rhodésie, terriblement affectée par les conflits sociaux et la récente indépendance du Mozambique, eh bien cette communauté connaît un déclin constant. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler des communautés disparues. Les communautés juives d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, se sont pratiquement vidées lors de la décolonisation dans les années 1960. Il ne reste plus aujourd'hui que 6 000 juifs en Tunisie, 20 000 au Maroc, dont 12 000 à Casablanca, et un peu moins d'un millier en Algérie. Ces communautés vivent dans une stabilité relative, mais sont régulièrement secouées par des mouvements antisémites. La communauté juive d'Éthiopie vit également une situation dramatique. Les Falachas étaient 100 000 au début de ce siècle. Nous savons que il n'en reste presque plus, quelques milliers, surtout après que l'on ait réalisé cette opération gigantesque de rapatriement en Israël d'un certain nombre de Falachas. Le gouvernement marxiste qui a renversé en 1974 l'empereur Haïlé Sélassié a rendu difficile leurs conditions de vie. Toutes les synagogues et toutes les écoles ont été fermées. Le gouvernement marxiste en place n'est pas particulièrement antisémite, mais généralement anti-religieux, ce qui, en l'occurrence, revient au même. Quant à la communauté d'Égypte, la communauté juive d'Égypte est éteinte. Florissante à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec 130 000 membres, elle en compte aujourd'hui moins de 300. Après le continent américain, après le continent africain, eh bien, nous passons à l'Europe, bien entendu. Avec près de 3 millions de juifs, l'Europe rassemble un peu moins du quart des juifs du monde. 1 100 000 à l'ouest et près de 2 millions à l'est. Parlons, si vous le voulez, d'abord, puisque nous sommes l'une des communautés les plus importantes d'Europe, parlons de l'essor du judaïsme français. Avec aux environs de 600 000 juifs, car il est très difficile de faire des statistiques, et vous savez que normalement, notre Torah interdit de compter les juifs. Enfin, on évalue, les uns disent 700 000, les autres disent 530 000, disons 600 000 pour les besoins de l'entretien. Donc avec près de 600 000 juifs, la communauté française est la quatrième du monde. Il existe des communautés organisées dans plus de 150 villes de France. On en trouve même dans les dom-tom. 6 villes ont une population de plus de 10 000 âmes. Ainsi, on évalue à 350 ou 400 000 le nombre de juifs à Paris, Paris et la région. Entre 60 et 70 000 juifs à Marseille. Entre 20 et 30 000 à Lyon. Aux environs de 20 000 à Toulouse. À Nice, me direz-vous, Nice, eh bien, voilà, ça dépend si on est pessimiste ou optimiste, et ça dépend de savoir, au fond, qui est juif, mais enfin, c'est pas le débat aujourd'hui. Alors, les pessimistes disent 18 000, les optimistes disent 30 ou 35 000, si vous le voulez bien, nous ferons comme Salomon, en fait, nous serons plus près de la vérité en disant qu'à juif, à Nice, la population juive est de l'ordre de 22 à 25 000 âmes. Mettons 25 000. En tout cas, ça en fait probablement, sûrement, la troisième ou quatrième communauté juive de France. Et enfin, Strasbourg, donc, compte 12 000 juifs environ. Il y avait 270 000 juifs en 1939, 150 000 à 200 000 seulement après la guerre. En 1945, la judaïcité française était exsangue. La communauté s'est un peu renforcée pendant les 10 années suivantes par un faible flux d'immigration d'Europe centrale et orientale. Mais c'est le processus de décolonisation de l'Afrique du Nord qui a changé radicalement les structures sociodémographiques du judaïsme français. De nombreux juifs du Maroc, de Tunisie et surtout d'Algérie s'installent en France dans les années 1960. Aujourd'hui, la population juive de France est jeune, relativement bien intégrée dans la population nationale. 20% des juifs sont cadres supérieurs et professions libérales, 16% sont dans le commerce et 45% sont des cadres moyens et employés. La communauté juive de France est organisée autour de 3 institutions principales. Le consistoire central israélite de France, créé par Napoléon, est chargé de veiller aux intérêts généraux et à l'exercice du culte. Le Fonds social juif unifié, créé en 1950, qui est une organisation chargée de planifier et de coordonner les activités sociales, éducatives, culturelles, qui agit bien sûr grâce à la collecte nationale effectuée par le Karen Hayesod, c'est-à-dire l'appel unifié juif de France. Et enfin, troisième institution principale, le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, né en 1944 de la Résistance et qui regroupe toutes les tendances du judaïsme. Il joue un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics. On peut dire que l'éveil de la conscience de la communauté juive de France a eu lieu en 1967, lors de la guerre des Six Jours. Depuis les chocs du conflit israélo-arabe et les attentats de la rue Copernic et de la rue des Rosiers, la communauté passe du désir de se refermer sur elle-même au besoin de s'ouvrir davantage à la vie nationale. Et les autres pays d'Europe, Europe occidentale d'abord, eh bien le Royaume-Uni, 400 000 membres, c'est la deuxième communauté juive d'Europe de l'Ouest. La communauté d'Espagne n'est réellement réapparue après son expulsion en 1492 qu'à partir de 1945. Aujourd'hui, elle compte 12 000 âmes environ. En Grèce, il ne reste aujourd'hui que 5 000 juifs. Alors, bien sûr, on ne peut parler de l'Europe sans parler des juifs du RSS. Le dernier recensement effectué indique 1 850 000 juifs en Union soviétique contre 2 200 000 en 1959 et 2 150 000 en 1979. La communauté soviétique en 25 ans a perdu un quart de ses membres. Cette perte ne peut pas s'expliquer par l'émigration des Juifs du RSS qui, malgré les derniers chiffres encourageants, reste très faible. Il est vraisemblable que, compte tenu de l'attitude des autorités et de la réticence des Juifs eux-mêmes à se faire enregistrer comme tels, dans un tel contexte plus valorisant, les chiffres officiels soient sous-évalués. En effet, en 1973, le premier ministre soviétique évaluait le nombre de Juifs de son pays à 3 millions. Cette décroissance démographique s'explique aussi par des facteurs internes. La population juive a vieilli, elle a connu dans les années 60 une assimilation rapide et un taux de mariage mixte extrêmement élevé. Dans un climat de propagande ouvertement antisémite, la représentation des Juifs dans les secteurs intellectuels régresse, la participation aux institutions nationales est encore plus dérisoire, il y a seulement 6 Juifs sur 1500 députés au Soviet suprême. Les Juifs soviétiques disposent de peu de moyens et l'on comprend ainsi qu'ils ne puissent constituer désormais une force importante. On retrouve un semblant de vie juive, mais en deux ou trois décennies, la majorité des synagogues ont disparu. Il n'existe pratiquement plus d'institutions culturelles juives. Même l'étude de l'hébreu, sauf peut-être une timide législation plus libérale récente, même l'étude de l'hébreu, pourtant reconnue par les soviétiques comme langue vivante, est pratiquement interdite aux juifs. Nous savons que les juifs soviétiques qui demandaient leur droit d'émigrer en Israël se voyaient qualifiés du nom de « refusniks ». On les traite comme des parasites et bien sûr, cela n'est pas fait pour encourager, mais l'on sait que des centaines de milliers de juifs souhaitent rejoindre Israël ou tout au moins rejoindre des pays où ils puissent pratiquer plus libéralement leur judaïsme. Les autres démocraties populaires, eh bien, oh, ça va vite, puisque les communautés des autres pays de l'Europe de l'Est ne regroupent que 125 000 juifs, un chiffre dérisoire par rapport à leur importance avant-guerre. La Pologne, qui comptait 3 500 000 juifs en 1939, n'en rassemble aujourd'hui guère que 5 000, mais l'antisémitisme reste pourtant vivace. Avec 63 000 juifs, la communauté de Hongrie jouit d'un statut privilégié. Elle peut développer certaines activités éducatives et culturelles. Elle possède l'unique école rabbinique d'Europe de l'Est, à Budapest. La Roumanie, elle, regroupe 30 000 juifs. Bucarest possède 16 synagogues, 24 écoles et 11 restaurants cachers, beaucoup plus qu'à Nice. Enfin, c'est tout le pays de la Roumanie, bien sûr. La communauté diffuse un journal mensuel en hébreu, yiddish et roumain qui connaît une notoriété internationale certaine. Reste la Yougoslavie qui compte 3000 membres, mais jouit de liberté religieuse et du droit d'immigrer même en Israël. Eh bien, il reste un continent, c'est l'Asie. Vous me direz, l'Asie, mais qu'est-ce qu'il va... Eh oui, mais en Asie, il y a Israël. Eh oui, en Asie, il y a Israël. Alors, en Asie, il y a d'abord trois communautés en péril. Deux communautés juives connaissent de grandes difficultés. Ce sont les 60 000 juifs iraniens qui vivent sous l'extrémisme intégriste et la politique farouchement anti-sioniste de l'ayatollah Khomeini. Les juifs du Yémen, 1 million environ, vivent dans une constante violation des droits de l'homme. Ils n'ont pas le droit de quitter leur pays, ni de recevoir du courrier, ni des visites de juifs de l'étranger. Vous savez, en ce qui concerne les 5000 juifs syriens, qu'ils n'ont pratiquement pas le droit de quitter la Syrie et qu'ils sont considérés comme des otages. Et reste donc le seul pays d'Asie où l'on soit libre d'être juif et fier d'être juif, et vous l'avez deviné, c'est Israël. La communauté juive d'Israël est la plus importante communauté d'Asie, mais aussi la deuxième communauté du monde. À la différence de toutes les autres communautés, c'est la seule qui soit organisée en état constitutionnel et démographique. La population juive israélienne est en augmentation constante en raison de la croissance interne, certes, et bien sûr des mouvements immigratoires. Nous pouvons dire que la progression a été à peu près la suivante. En 1960, il y avait 1 900 000 juifs. En 1975, 2 900 000, 3 millions à peu près. En 1982, 3 600 000 juifs. Et nous savons quelle est actuellement la population juive de ce pays. Sur cette augmentation d'un million et quelques en 15 ans, de 60 à 75, l'accroissement naturel représente 600 000 personnes. Les statistiques officielles font apparaître pour 1982 une augmentation de la population juive de 58 000 personnes. Certes, si l'on constate une légère croissance du taux de fécondité de la population juive, il faut noter que la population non juive s'accroît deux fois plus rapidement. En raison de la loi du retour que tout le monde connaît chez les auditeurs de Radio Shalom Nitzan, Israël est un pays d'immigration. De 1960 à 1975, 400 000 juifs s'y sont installés. L'Alia a tendance à se maintenir entre 76 et 79. Elle a eu tendance à régresser par la suite. De toute façon, cette Alia reste très faible, hélas, par rapport aux possibilités des grosses communautés occidentales que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Alors, après avoir fait ce rapide historique des Juifs dans le monde, la question se pose, quel est l'avenir ? Nous avons vu que pour les communautés juives de la diaspora, on assiste à une réduction constante des petites communautés au profit des gros centres juifs. Le fait fondamental pour l'avenir semble être le recul de la diaspora européenne, malgré l'essor du judaïsme français. Pour ce qui est de l'ensemble des communautés juives du monde, le recul de la diaspora d'Europe, de l'Est et d'Amérique latine correspond à l'essor de la communauté juive d'Israël. Ce renversement de tendance doit être considéré comme le fait le plus important du judaïsme mondial. D'ici à la fin de ce siècle, 50% des juifs du monde vivront en Israël. D'une manière générale, le nombre total de juifs dans le monde est estimé aujourd'hui aux environs de 13 millions. Pour l'avenir, cette estimation dépend de l'importance de la décroissance démographique dans la diaspora et du maintien de la croissance démographique juive en Israël. Le déclin de la diaspora est globalement compensé par la croissance en Israël, c'est pourquoi on peut prévoir que le nombre total de juifs dans le monde restera stable jusqu'en 1990. Par contre, selon les études de l'Institut du judaïsme contemporain, le nombre total de juifs dans le monde pourrait décliner de 1990 à la fin de ce siècle, mais ceci s'est compté sans la volonté des juifs, et ceci est plus fort que cela. Et nous allons donc, si vous le voulez bien, maintenant tirer la conclusion de ces nombreuses émissions que nous avons vécues ensemble sur l'histoire du peuple juif. Je crois que l'on peut discerner dans l'aventure du judaïsme une histoire singulière, irréductible à tout modèle, une histoire justifiant cette remarque de Cioran à propos des juifs. Une histoire qui déroute l'histoire. Deux expériences ont marqué l'histoire du peuple juif ces 50 dernières années. La Shoah et la renaissance de l'État d'Israël. La Shoah ne fut pas seulement une catastrophe pour les juifs. Elle fut aussi une catastrophe morale pour l'Europe. Auschwitz reste aujourd'hui encore le signe d'une hypothèque sur l'histoire. La renaissance de l'État d'Israël concerne-t-elle le peuple juif et lui seul ? Pourquoi alors un tel degré d'intérêt et de sensibilité de la part du monde politique, des milieux journalistiques, des médias et même de toute l'opinion à l'égard de ce qui touche à Israël. Sans doute, ces deux éléments, et plus généralement ceux qui sont survenus aux femmes et aux hommes juifs dans le passé, participent-ils de l'histoire générale des nations et justifie le titre de notre émission depuis son début, c'est-à-dire « Les Juifs dans l'histoire ». L'Égypte, la Syrie, Babylone, l'Empire perse, la Grèce et Rome avaient figuré le destin implacable des puissances dont la décadence et la disparition sont déjà en germe dans l'apogée. Ne peut-on deviner dans la fébrilité et la hâte des bâtisseurs d'empire leur sourde certitude de la fragilité des hommes dans leur vie éphémère, en même temps que leur fascination pour la solide inertie des choses? C'est comme si elles avaient emmagasiné, sous forme de durée, les millénaires pour lesquels on les a conçus. Leur évidence et leur durée, voilà ce qui impressionne le plus fortement, écrivait Canetti à propos des pyramides. N'est-ce pas parce que la brique y devenait plus précieuse que l'homme, que ces grandes civilisations n'ont pu éviter de nous léguer l'horreur en même temps que la grandeur. Babylone et ses sacrifices d'enfants, Thèbes et son culte de la mort, Athènes et ses esclaves, Rome et la décimation, l'Évangile et l'Inquisition, Beethoven et Hitler. Hitler, parlant à la femme de son ministre, Speer, disait « Votre mari érigera pour moi des édifices tels qu'on n'en a plus construits depuis des millénaires. » Plaisir à édifier et destruction chez Hitler sont présents et actifs avec acuité. C'est dans ce côte à côte que réside le bouleversant de cette confrontation. Elle est l'expression concentrée de quelque chose qui nous inquiète par-delà Hitler. Elle est le seul résultat incontestable et constant de toute l'histoire jusqu'à ce jour. Elle nous contraint à examiner cette soudaine exacerbation de l'histoire que constitue l'entrée en scène d'Hitler. Voilà ce qu'on pouvait lire donc dans ce livre de Canetti. Et pourquoi le peuple juif a-t-il donc été la victime privilégiée de cette désorientation de l'histoire? Est-ce parce qu'il a su maintenir le fil orienté et ininterrompu de son histoire tout en la conjuguant au pluriel? Les traces du peuple juif ne sont en effet ni des pierres, ni seulement des objets, mais des générations d'hommes dont le souvenir s'est maintenu par des montagnes de livres, des heures de gestes, des siècles de fidélité et des horizons d'espoir. Espoir. Tel semble être le maître mot du destin juif. Lui aussi connut ses heures de puissance et de gloire. Mais quelle étrange obstination dans le refus de disparaître à l'heure des effondrements politiques. Rome campe encore sur les ruines de Jérusalem que déjà des hommes s'assignent la tâche d'élaborer et de transmettre la vie d'une tradition sans les facilités ou la servitude du lieu. Comment survivre en exil? Cela fut-il possible parce que priorité fut donnée à la Torah, principe éthique et cadre juridique de l'existence sur tout autre facteur? Comment ne pas être englouti? Est-ce parce que les Juifs se sont attachés à élaborer et à concrétiser dans la vie quotidienne une pensée toute de richesse et de profondeur, et que, privés de la dimension de l'espace, ils se sont mués en bâtisseurs du temps? Comment conserver l'unité? Est-ce parce que l'idée du retour sur leur terre n'a cessé de les accompagner à travers les épreuves et qu'ils l'ont attesté par un courant ininterrompu de retour en Palestine? Poser ces questions, c'est situer la renaissance récente de l'État d'Israël dans une perspective qui ne se limite pas à l'histoire immédiate. Fruit d'une fidélité qui n'a jamais cessé de se manifester par le rite, la vision prophétique et l'actualité de l'action, la souveraineté recouvrée des Juifs sur leur terre ne traduit-elle pas d'abord la volonté d'exprimer un lien spirituel en réalité et en acte? Ce qui est certain, c'est que cette souveraineté ne peut être considérée comme une forme quelconque de dédommagement pour la Shoah. Comme les nouveaux enfants de Job ne remplacent pas ceux qui sont morts durant son drame, les nouvelles générations ne remplacent pas les disparus des camps. Les survivants peuvent tout juste veiller aux devoirs de fidélité et de vigilance, attentifs aux dangers d'une histoire dont l'admiration pour la puissance reste le moteur. De quelle nature est donc la souveraineté du peuple juif sur la terre d'Israël? Est-ce un état refuge? Peut-être. Mais s'il n'avait été question que de cela, n'importe quel autre territoire aurait pu aussi bien faire l'affaire. L'Ouganda, on en a parlé à un certain moment. Tout lieu en vaut un autre, n'est-ce pas? Et s'il n'avait fallu réellement qu'un quelque part dans cet espace isotrope des géomètres où tous les lieux sont interchangeables, tout autre lieu eût sans doute été plus grand, plus fertile, plus économiquement habitable qu'Israël, et peut-être personne ne lui disputerait-il aujourd'hui ces quelques lopins de terre. Est-ce seulement un État de plus parmi les autres nations du monde? Assurément. Pourquoi, de tous les peuples de la terre, le peuple juif serait-il le seul à se voir privé du simple droit à l'expression politiquement organisée de son identité? Mais de quel État s'agit-il? Ses fondateurs acceptent dès l'origine de partager avec d'autres la terre même qu'ils revendiquent dans le cadre de leur avènement national et de limiter leur exigence de souveraineté. Malgré quatre guerres imposées par le refus arabe, ce peuple s'obstine à proposer de substituer la voie du partage à celle de la confrontation. Il est prêt à d'importantes concessions en échange d'une simple mais d'une véritable reconnaissance et en vertu de la simple mais de la véritable paix. Il s'acharne à obtenir la signature de traités en bonne et due forme avec ses voisins. De quel État s'agit-il enfin qui suscite un tel intérêt, une telle passion de la part des nations, qui provoque critiques et louanges aussi excessives les unes que les autres? Voilà, écrit Alain Finkielkraut, une nation contestée au moment même où on lui suppose la morgue et la sérénité des nations incontestables. Cette contradiction ne révèle-t-elle pas l'affrontement de deux logiques? Tous ceux qui refusent de comprendre le sentiment d'insécurité d'Israël semblent lui dire « De quoi avez-vous peur, vous qui êtes les plus forts ?» Ne révèle-t-il pas alors que l'histoire seule leur celle de référence, oublieux que le destin d'une force est de croiser un jour plus fort qu'elle? N'admet-il pas implicitement les naufrages successifs des puissances et la disparition nécessaire des peuples, faisant de la mort le principe de l'histoire? Les critiques portées souvent avec bonne foi contre la politique de tel ou tel gouvernement israélien ne masque-t-elle pas parfois aussi des tendances moins facilement avouables, comme si le vieil antisémitisme trouvait là l'occasion rêvée de s'exprimer de façon de moins en moins voilée, et comme si la culpabilité occidentale, née au lendemain de la Shoah, pouvait enfin s'oublier et se dédouaner? Israël refuse de se laisser dépecer sous les coups conjugués du terrorisme, de la guerre et des lâchetés, en n'acceptant pas de disparaître ou de donner aux autres les moyens de le faire disparaître. Cet État serait-il témoin d'une conception qui refuse de faire du droit la seule légitimation des rapports de force? Mais alors, de quel État s'agit-il? Cette démocratie moderne, culturellement développée, est-elle assimilable aux seules catégories politiques et culturelles européennes? Cet État juif encore traditionnel et pré-moderne entre-t-il dans la seule orbite du tiers-monde? Où situer alors une telle expérience qui tente, par le maintien de la tradition, de contenir les ferments de destruction d'une modernité mal assimilée tout en refusant, par l'essor scientifique et culturel, la fatalité du sous-développement? Quelle étrange société que celle d'Israël! Comment comprendre la complexité et la vivacité des tensions qui la déchirent? N'a-t-on pas le sentiment qu'il y a là un vaste laboratoire politique et humain où s'affrontent et se mesurent, à visage découvert, les contradictions et les propositions d'une société dynamique? Peut-on édifier un État sans en accepter les conséquences? Ou fixer les limites qui éviteront à la politique de sombrer dans ses propres excès? Confronté à une guerre qui n'a jamais vraiment cessé, œuvrant pour une paix à peine ébauchée, accablé de difficultés économiques et menacé d'isolement politique, comment la société israélienne ne verrait-elle pas certains de ses membres saisis du vertige de l'extrémisme? Pourtant, les événements d'août 1982, de manière plus visible encore que d'ordinaire, ont montré que le peuple d'Israël refusait à son État le droit de perdre la raison. Avec la commission Kahan, on mesure l'extension de l'État de droit qui se trouve englobé des actes de gouvernement en temps de guerre. Ce combat semble quotidien dans une société où paraissent se percher l'Israël visible et l'Israël invisible. Dans ce lieu où se produit la confrontation de l'éthique et du politique, où se cherchent leurs limites. La tension, si perceptible dans la vie quotidienne des Israéliens, aurait alors une autre source que les seuls impératifs de défense ou les difficultés économiques. Ne reflèterait-elle pas les tâtonnements d'une société à la recherche d'une nouvelle voie, où le droit serait plus qu'un principe et la politique plus qu'un fait? Les affrontements qui traversent la vie politique israélienne, tant à propos du conflit avec les États arabes voisins et les Arabes palestiniens, qu'au sujet des hésitations dans la définition de la nature de l'État et du concept sioniste, attirent le regard vers une société qui semble accepter de mesurer ses réalisations à l'aune d'un héritage et d'un projet. En Israël, sionistes et anti-sionistes, groupes nationalistes et pacifistes, religieux et laïcs, Israéliens d'origine européenne ou arabe, juifs d'Israël et juifs de diaspora, tous sont engagés dans un immense dialogue, parfois de sourds, mais ils tentent, avec virulence quelquefois, avec patience souvent, de maîtriser ensemble les différents modèles dont ils se sentent porteurs. Ce qu'ils tentent de créer commence à peine à éclore. N'est-il pas injuste de réclamer d'un État de moins de 40 ans ou d'un peu plus de 40 ans qu'il réalise ce qu'en plusieurs siècles, les nations occidentales ne sont pas parvenues à maîtriser complètement? Tant qu'Israël n'était que diaspora, les grandes options pouvaient être repoussées et préservées par l'infinie patience des gestes de la tradition et des mots de l'étude. Mais désormais, Eretz Israël n'est plus ni une nostalgie, ni un espoir fou. Il est une option urgente, déterminée par un fait historique, qui ne permet plus les réponses dilatoires. À cette urgence, il importe de répondre, tout en sauvegardant l'exigence d'une inquiétude que la diaspora devrait représenter, mais que la société israélienne a déjà intériorisée. La difficile quête de la paix, la reconnaissance des droits de tous à vivre sur une terre, la construction d'une société conforme à l'exigence éthique de la tradition juive, la définition de liens nouveaux entre Israël et la diaspora sont autant de questions qui résonnent aujourd'hui encore comme des défis. Ne sont-ils pas, somme toute, ceux de tous les hommes? Comment concilier des exigences contradictoires, des aspirations contraires? Comment bâtir la paix? L'espace israélien est l'un des lieux où les réponses cessaient. C'est temporellement que nous construirons cette solution. C'est à l'horizon d'un labeur et d'un devenir infini que se réalise l'ajustement des deux exigences contradictoires. Ce travail est un grand travail, un travail réjouissant, notre tâche d'homme, un travail infini pour tout récupérer, ne rien laisser perdre, ne rien renier. Dans les échecs, comme dans les succès, dans les excès parfois, ce travail est en œuvre. Seule la patience du temps permet de croire en la capacité de l'homme à réaliser les valeurs qui fondent son existence et d'affirmer que l'histoire a en fin de compte un sens.